Vous êtes content? C'est de notre mieux. Alors, quelques petites instructions. Voilà, je suis là pour ça. Encore une fois, faites attention aux casques. Fermez bien vos casques audio si vous ne les écoutez pas. Ou alors, quand vous les avez dans les oreilles, essayez de ne pas avoir un volume trop fort. Voilà, essayez de moduler un petit peu. A priori, ça allait mieux hier en fin de soirée. Deuxièmement, je vais le répéter encore, j'aime pas du tout faire ça, mais je suis obligée. Pas de vidéo, pas de photo aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'accords avec nos intervenants. Et hier, malgré le fait de l'avoir dit deux fois, il y a eu des gens qui ont filmé. Aujourd'hui, on va être intraitable, vraiment intraitable. Quoi. Donc, j'ai envoyé des espions et tout. Voilà, donc c'est vraiment important. Voilà, on est ici dans un congrès où on essaye, entre guillemets, de travailler tous ensemble en commun. Donc je vous prie vraiment de respecter ça. Voilà. C'est important. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Voilà, donc je vous souhaite un bon congrès. J'aurai des petits... Oui, n'oubliez pas les questionnaires avec vos questions si vous souhaitez poser des questions aux intervenants. Je vais appeler Dr Nadine Schuster. Alors, comme j'étais en retard hier, je ne l'ai pas présenté, mais c'est volontairement que j'ai choisi quand même le Dr Nadine Schuster, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une médecin très, très connue, réputée depuis 30 ans par ses travaux en médecine quantique. Elle fait de la recherche, c'est une des pionnières dans ce domaine-là. Son CV est tellement grand que je crois que j'aurais besoin d'une heure pour tout expliquer, mais c'est vraiment elle a fait beaucoup de conférences scientifiques. C'est vraiment une chance de la voir aujourd'hui en tant que modérateur, et pas que modérateur, mais en tant que en tant que femme déjà, hein, dans ce milieu un peu quantique. Vous pouvez l'applaudir. Elle a mis à votre disposition quelques livres. Il n'en reste plus beaucoup.
Il n'y en a plus.
Bah voilà, désolée.
Il n'y en a plus. Après, ceux qui restent là, l'édition, les 10 000 sont vendus.
Voilà, la médecine quantique. Donc,
il en reste quelques-unes, 20.
Voilà. Je vous laisse, docteur. Et puis, bonne conférence pour ce matin. Merci à vous.
L'homme créateur de l'univers. Alors, est-ce que vous connaissez le neutrino, cette particule? Le neutrino est capable de transmutation sans énergie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, le neutrino est capable de transmutation sans énergie, c'est essentiel. Les neutrinos sont porteurs de l'information immatérielle qui constitue le psychisme. Donc, on pourrait dire que les choses sont ce que l'on pense d'elles. Alors, gravez ça, les choses sont ce que l'on pense d'elles. On peut recréer l'univers avec ça. Alors, Luc Baudin, c'est un médecin diplômé en cancérologie clinique. Et son sujet de conférence, l'homme créateur de l'univers. Et je vais lui poser une question difficile. Est-ce que l'état d'esprit peut réellement conditionner la vitalité du système immunitaire? Voilà, à travers ce que vous avez dit. Merci.
Merci. Je me réserve de répondre à la question soit dans le texte, soit... Enfin, on verra. Bien, je vais vous dire déjà bonjour à tous et bravo d'avoir bravé le soleil matinal pour venir à la conférence de ce matin. Je vous remercie. Et puis, comme vous l'avez vu, l'homme créateur de l'univers, c'est un beau programme, un grand programme large. Et la journée d'hier a été beaucoup tournée vers les sciences fondamentales, vers la recherche vers les appareillages, qui sont des choses très, très intéressantes et qui nous permettent d'appuyer les dires sur la médecine quantique, ou moi j'aime bien parler de la médecine énergétique. Il faut souvent savoir aussi nourrir ce cerveau gauche qui nous fait poser tant de questions pour pouvoir atteindre une autre dimension de l'être humain qui pour moi est fondamentale, c'est la notion du ressenti, de l'intuition. Et on va voir qu'à travers du discours que je vais vous tenir, j'espère vous ouvrir sur une autre dimension de l'être humain et surtout montrer que on n'a pas forcément besoin d'appareillage, on n'a pas forcément besoin de tout ça pour faire des choses merveilleuses déjà dans le niveau de notre vie quotidienne et puis aussi au niveau des soins pour ceux qui sont thérapeutes. Donc je vais vous emmener dans un univers déjà merveilleux qui est ce que j'appelle moi la réalité invisible. La réalité veut bien dire, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est que c'est la véritable réalité et l'invisible qu'on n'a pas conscience avec nos sens habituels. Et parce qu'en fin de compte, nos sens nous trompent complètement. Et donc, vous voyez, si vous regardez cette image-là sur votre droite, et si vous voyez les petites roues qui tournent, sachez qu'elles sont fixes normalement. Donc déjà, vous comprenez que nos cinq sens nous limitent aussi au niveau de notre connaissance. Nous ne connaissons l'univers qu'à travers nos cinq sens. Petit clin d'œil est que les énergies lumineuses sont des vibrations, les sons sont des vibrations. On sait aussi que l'odorat, maintenant, est aussi une vibration, parce qu'on s'est rendu compte que les molécules, même des molécules très proches au niveau configuration, pouvaient produire des odeurs tout à fait différentes. Or, ce n'était pas concevable vu la similitude qu'il y avait entre les deux molécules. La seule explication possible, c'était qu'ils émettaient des vibrations différentes qui donnaient des niveaux vibratoires différents. Et donc, ces niveaux vibratoires donnaient des odorats différents. Donc, le goût est très certainement également du domaine vibratoire, et aussi le toucher, comme la matière, comme vous l'avez vu hier, est une matière énergétique, évidemment. Il est évident que le toucher est de nature vibratoire également, pour ressentir entre le lisse, le rugueux et choses comme ça. Donc nous ne sommes qu'en contact avec nos cinq sens. Nos cinq sens sont en contact directement d'ordre vibratoire, des ondes vibratoires. En plus de ça, on sait que dans la lumière, par exemple, les sons, on ne va pas entendre tous les sons, on ne va pas voir toutes les lumières. Donc là encore, nous sommes extrêmement limités. Donc les sens sont très utiles, bien sûr, mais ils sont limités et imparfaits. Donc ils nous trompent. Et ce qui est un petit clin d'œil aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des nouvelles énergies, les choses bougent en ce moment, des choses, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et il y a des nouveaux sens qui sont en train de se développer, et certainement beaucoup d'entre vous s'en sont aperçus. Déjà, l'intuition se développe d'une manière très très importante, et c'est une notion, c'est un élément encore à écouter, à développer, non pas forcément à suivre, c'est un sens, c'est une information, c'est tout. Il y a la clairvoyance, le ressenti, même les phénomènes télépathiques qui se développent de plus en plus. Donc voilà, mais je ne vais pas aller trop vite quand même, on va commencer par revenir à notre point de départ. J'étais déjà parti et je vais me présenter, donc je suis le docteur Baudin, comme je suis donc diplômé en cancérologie clinique, spécialisé en médecine douce. Donc depuis, j'ai exercé pendant près de 25 ans, et au fur et à mesure des années, je n'ai pas cessé d'étudier différentes spécialités. Le petit clin d'œil, d'ailleurs, je me suis aperçu, c'est que mes trois premières spécialités en médecine naturelle furent l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie. Et quand j'y réfléchis maintenant avec la distance, je m'aperçois qu'en fait, l'acupuncture m'a déjà ouvert à l'énergie du corps humain, la circulation d'énergie, comme disent l'acupuncture. L'homéopathie n'est rien d'autre qu'une information. On passe une information, d'ailleurs. On avait des beaux travaux qui ont été faits par M. Benveniste. Et si vous avez en plus la curiosité, prenez un brin d'homéopathie, ne le prenez même pas, ne laissez pas fondre dans votre bouche, portez-le simplement sur vous, vous apercevrez que déjà, vous allez avoir une réaction au niveau de votre organisme. Plus fort encore, vous pouvez simplement penser au remède, et simplement le fait d'y penser va déjà permettre d'avoir une réaction au niveau de votre organisme. Peut-être pas suffisant pour avoir la réaction complète si la maladie est vraiment insérée dans le corps, mais ça va déjà faire avancer les choses. Donc ces trois phénomènes-là ont été déjà très, très utiles dans mon approche de médecine naturelle. Après ça, évidemment, quand on regarde, j'ai vu au fur et à mesure du temps, c'est qu'on avait grosso modo trois sortes de médecine. La médecine conventionnelle, qui est très utile, très importante, et je serai le dernier à la décrier parce que je dis souvent en plaisantant, si j'ai un infarctus tout de suite, ne me donnez pas des fleurs de Bac, quoi que ça peut m'attendre, mais surtout, m'appelez le SAMU. Donc la médecine conventionnelle a toujours une utilité, toujours importante dans la chirurgie, les maladies graves, les maladies d'urgence. Après ça, les médecines naturelles ont aussi un point extrêmement intéressant en travaillant sur le terrain avec la phytothérapie, l'homéopathie, la nutrition, la micronutrition, la micro-immunothérapie, l'ostéopathie, la biothérapie, toutes ces formations que j'ai un petit peu accumulées au fur et à mesure des années et qui m'ont appris tant de choses et que j'ai pu utiliser dans ma pratique quotidienne. Le côté psychique avec la psychiatrie qui nous montre bien sûr les côtés pathologiques sans nous définir d'ailleurs ce qu'est la bonne santé, c'est un peu dommage. La sophrologie est extraordinaire, la psychologie, la PNL est un élément extraordinaire, on devrait l'apprendre dans les écoles tellement c'est important. La symbolique à l'origine, ça s'appelait, quand je l'ai étudié, ça s'appelait la médecine nouvelle, si vous voyez ce que je veux dire. La pensée positive, la visualisation de Simonton, les prières ont vraiment des résultats intéressants, la recherche de sens de la vie. Donc ça, c'est le côté psychologique. Et je dirais un petit peu le côté énergétique avec, bien sûr, l'acupuncture, l'ayurveda, qui sont des médecines qui datent de plus de 5000 ans et qui ont encore pignon sur rue et qui nous apportent tellement de choses encore aujourd'hui. Mais ici, dans notre pays, on a encore les magnétiseurs, on a toujours les toucheurs de feu. Moi, dans les stages que j'anime, j'apprends à tout le monde à apprendre cette prière du feu parce que tout le monde devrait la connaître pour pouvoir soulager dans les premiers signes. Ça permet de soulager la douleur, d'améliorer la cicatrisation et de faire disparaître ou des cicatrisations sans séquelles. Les guérisseurs, les rebouteux, la radiesthésie est très troublante. Dans mon village, auprès de chez moi, il y avait un médecin qui faisait de l'homéopathie avec radiesthésie. Il tirait des remèdes extraordinaires avec des résultats très probants. Donc tout ça, je l'ai vu, je l'ai étudié, je l'ai constaté. Et puis en fin de compte, je me suis aperçu que tout le monde avait raison. Mais vous avez toute raison, c'est que la médecine conventionnelle a raison, il y a des résultats. La médecine en homéopathie, quand on traite sur des eczémas, on a raison, on a des résultats. Quand on fait un toucheur de feu, on a un résultat. Donc quand on fait le décodage biologique, moi ce que j'appelle la symbolique des maladies, en effet on retrouve les choses. Tout le monde avait raison, mais je ne comprenais pas comment tout ça pouvait s'articuler les uns entre les autres. Jusqu'à, et là je sais que je prêche des convertis, et bien jusqu'à le moment où je me suis commencé à me pencher sur la physique quantique. Et là, la physique quantique, je ne vais pas en revenir parce que je remercie les orateurs d'hier qui ont bien préparé tout ce que je dis aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, on vous a bien expliqué que la matière était formée d'énergie, et en plus, la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire que l'onde peut se transformer en corpuscule, l'énergie peut se transformer en matière, la matière peut se transformer en énergie, comme l'eau se transforme en vapeur, et la vapeur va se retransformer en eau, simplement avec des conditions différentes au niveau de la climatologie pour l'eau, et pour la vibration, c'est autre chose. Et il y a une étude qui a été évoquée d'ailleurs par le professeur Bogola hier, c'était sur les enzymes avec des effets tunnels. On s'est aperçu qu'on pensait dans notre physiologie qu'une enzyme, quand elle voulait rentrer dans un organe, quand elle voulait traverser un tissu, c'est qu'elle faisait passer au travers des cellules pour ressortir de l'autre côté et continuer son chemin. En fin de compte, on s'est aperçu que grâce à l'effet tunnel, c'est quelque part comme si la molécule qui était une molécule de matière se retransformait en énergie pour traverser le tissu et se reformer en matière. Donc de l'autre côté, pour continuer son chemin. Donc c'était vraiment cette dualité onde-corpuscule est très importante et elle est utilisée dans notre organisme d'une manière beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Et vous rappelez-vous l'histoire aussi de nos cinq sens qui sont énergétiques et on a toujours l'impression que c'est du domaine matériel. Non, c'est déjà du domaine vibratoire. Et bien sûr, ce qui va chapeauter tout ça, c'est l'information qui dirige la matière et qui va diriger l'énergie, parce que l'énergie ne va pas se lever un beau matin, comme je le dis souvent, elle ne va pas se lever un beau matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me transformer en petite particule de photon, ou je vais peut-être me transformer en quark ou en électron. » C'est qu'évidemment, il y a quelque chose qui l'informe. Et c'est ce qu'appelle souvent, il y avait le professeur Smoot, qui avait été repris par les frères Moldanov, qui parlait aussi d'ADN cosmique, c'est-à-dire un ADN qui pourrait être une information qui serait quelque part dans l'univers et qui orienterait cet univers et notre propre ADN vibrerait en relation avec cet ADN cosmique. Donc tout ça, ça montre la physique quantique et explique très très bien. Pour que vous compreniez bien le trait d'union entre tout ça, on va refaire un tout petit retour en arrière sur la slide précédente. C'est-à-dire, c'est que je vous disais que tout le monde avait raison. En fin de compte, si vous prenez l'histoire du cancer, sujet tabou, mais on va le prendre quand même. Eh bien, dans le cancer, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, un, en médecine conventionnelle, c'est lié aux mutations génétiques qui sont liées au polluant, au rayonnement, aux mutations à l'hérédité, etc. Ok. En médecine naturelle, on va parler plutôt d'accumulation de toxines, on va parler d'acidose, etc. Ok. En médecine, en symbolique des maladies, on va parler, il y a un choc émotionnel qui va être la cause et qui va être le facteur déclencheur. En énergétique, on va dire, non, il y a un blocage énergétique qui fait que ça va accumuler un certain nombre d'énergies perverses et qui vont faire ça. En fin de compte, tout le monde a raison, parce qu'il faut reprendre le chemin à la base. C'est-à-dire, c'est qu'au départ, nous sommes tous pollués, nous sommes tous intoxiqués, à des degrés divers, on est tous en acidose. Cette acidose est générale dans notre organisme. Et puis, ben, la vie est ainsi faite qu'on a des chocs, qu'on a des émotions. Et ces chocs et ces émotions, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des vibrations. Comme ce sont des vibrations, cette vibration de l'émotion va rentrer en résonance avec un organe qui est exactement sur la même fréquence que nous. Ça va être la loi d'attirance. La loi d'attirance fait que telle vibration va venir se fixer sur tel organe. La rancœur ou la rancune va venir se fixer sur tel organe. Cet organe, à ce moment-là, se retrouve en blocage énergétique. Ça provoque une dépolarisation des cellules qui provoque un blocage énergétique à ce niveau-là. Une accumulation des énergies perverses, comme disent les Chinois, à son niveau. Et puis, sur le point de physique, toutes les toxines, tous les toxiques vont se fixer là. Et d'un côté, médecine conventionnelle, on va très bien comprendre que tout ce qui est dérivé du tabac, tout ce qui est préparation du terrain, va faire que ça va générer le cancer à cet endroit-là. Si bien qu'en fin de compte, le choc émotionnel est le facteur déclenchant, pas la cause, le facteur déclenchant, comme il est le facteur déclenchant, il va donner la localisation sur l'organe, parce que si on prend le problème, par exemple, le tabac, on dit, va provoquer un cancer du poumon, mais ça va provoquer d'autres cancers. Ça peut provoquer le cancer de la vessie, le cancer de la gorge, le cancer du col de l'utérus. Pourquoi un monsieur ou une femme va faire un cancer de la vessie, et pourquoi l'autre va faire un cancer du poumon, pourquoi le troisième va faire un cancer de la gorge? Personne ne peut expliquer ça. Par contre, quand on regarde ça sur le déclenchement par un choc émotionnel, on comprend que ça donne la localisation. Donc vous comprenez que après ça, une fois que l'organe est bloqué par l'énergie, il va y avoir une accumulation des toxines à ce niveau-là, accumulation des acides, il va y avoir aussi, après ça, la formation de mutations, et ces mutations vont entraîner ce qu'on appelle en médecine conventionnelle les premiers pas de la cancérologie. Donc vous voyez, quand on regarde tout ça, c'était le chaînon manquant qui manquait pour comprendre la genèse complète des maladies, et on comprend aussi que l'énergie se trouve exactement à l'interface entre le physique et le psychisme. Donc on sait aussi que l'homme est énergétique, on ne va pas revenir là-dessus, mais on sait qu'on utilise l'électricité au niveau des influx nerveux, la matière évidemment en forme d'énergie, les cellules sont émettrices de lumière, on en a parlé hier, l'ADN est émetteur-récepteur, on en a parlé hier, qui est en relation directe avec l'ADN cosmique, si bien qu'on est toujours en relation avec notre environnement. On est formé de corps énergétiques, et là aussi on les découvre de plus en plus, et grâce à des appareils qui sont de plus en plus sophistiqués, qui nous permettent de mesurer aussi les énergies très très fine comme l'appareil Squid, et puis surtout on se nourrit d'énergie, et comme disait très bien monsieur Lakowski il y a déjà plus d'un siècle, il disait tout simplement que la vie vient d'une vibration, donc elle est née d'une vibration, d'une onde, d'une énergie, elle est entretenue par l'énergie. Si on n'avait pas d'énergie, on mourrait immédiatement, comme quand on éteint l'électricité, c'est immédiat, et elle meurt en l'absence de vibration. Donc ces énergies sont essentielles, et on peut apprendre à capter les énergies. On peut apprendre à capter les énergies, et c'est quelque chose de très très simple. Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? On dit aux personnes, ben, vous êtes assis là tranquillement, vous êtes un peu fatigué ce matin, vous pouvez rester comme ça ainsi, vous vous mettez installé, jambes croisées ou décroisées, peu importe, les montres, les bracelets, les colliers, vous pouvez les garder, il n'y a aucun souci. Et puis à ce moment-là, vous vous mettez comme ça et vous mettez à capter l'énergie. Si vous mettez comme ça, vous verrez que dans la salle que l'on est, là, il va y avoir peut-être une dizaine de personnes qui va capter l'énergie, pas beaucoup plus. Pourquoi? Alors on peut faire la deuxième technique, c'est je peux dire, ben, je vais prendre l'énergie, je vais la capter pour vous, et je vais vous l'envoyer. Alors ça, c'est bien, c'est la technique gourou, si vous voulez. Donc je ne suis pas un gourou, je ne suis tout ce que font les gourous, vous pouvez tous le faire vous-même, il n'y a pas de souci, ne les suivez pas. Et par contre, vous pouvez très bien apprendre à le faire vous-même, à capter cette énergie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on oublie toujours de vous dire? Une chose qui est très très simple. Il suffit de demander, d'appeler l'énergie, de vous mettre en résonance avec cette énergie. Vous demandez de capter l'énergie, et immédiatement l'énergie va vous arriver. Et vous posez tranquillement n'importe où, dans le métro, dans votre voiture, n'importe où, et vous vous posez comme ça, et vous demandez à capter l'énergie, et on va vous l'apporter pour l'énergie de la journée, de la semaine, de toutes les activités que vous avez à faire. L'idée, c'est de toujours demander, de ne pas attendre, parce que c'est un peu comme le robinet, vous pouvez mettre la bouteille sous le robinet, mais si vous ouvrez pas le robinet, ça ne va pas vous donner grand-chose pour la bouteille. Pour ouvrir le robinet, il suffit de demander à l'univers, et il va vous l'apporter. Vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas forcément à l'univers qu'on demande, mais ça, c'est un petit peu une autre histoire. Mais demandez, demandez, et quand vous êtes fatigué comme ce matin, vous continuez à recharger les accus, même en écoutant ce que je m'en discours. Donc il y a une correspondance directe entre l'univers qui est fait de matière et d'énergie. Donc vous avez compris que la matière et l'énergie, c'est la même chose, on est bien d'accord, c'est les deux aspects du même élément, et l'information. Là, sur l'être humain, c'est évidemment les mêmes choses, sauf qu'on a changé les termes, simplement. Donc on parle de corps physique, on parle d'énergie, là encore, on n'a pas changé le terme, mais on parle de la pensée ou du psychisme, plutôt de parler de l'information. Si bien qu'à ce moment-là, on peut dire, évidemment, l'être humain est l'hologramme de l'univers, c'est ce qu'on entend partout. Mais moi, je pose la question, et si c'était l'inverse? Et si c'était l'univers qui était notre hologramme? Et vous allez voir pourquoi, dans le discours que je vais vous tenir maintenant. Parce qu'en fin de compte, dans le corps énergie d'un côté, l'information de l'autre, qu'est-ce qui prime dans tout ça? Ce qui est le plus important, c'est toujours l'information. Au début était le verbe, disait les Écritures. Donc l'information, c'est elle qui domine le reste. Et si tout n'était qu'information? C'est la question qu'on peut vraiment se poser. Et si tout n'était qu'information? Si tout ce qui était autour de nous n'était qu'information? Et que rappelez-vous qu'on est toujours informé que par des ondes, par des informations d'ordre vibratoire. Donc, et si tout ça n'était qu'information? Parce que déjà, on s'aperçoit que la force de la pensée agit à plein de niveaux. Elle rayonne au niveau de tout, parce que l'information vient de là. La pensée nous est déjà montrée par l'effet placebo. 30 à 35% de résultats positifs pour toutes les actions médicales, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles. Donc c'est des éléments extrêmement dérangeants d'ailleurs pour les médecins, parce que beaucoup de médecins, j'avais lu un article une fois dans le quotidien du médecin, c'était des psychiatres qui s'interrogeaient pour supprimer l'effet placebo des médicaments. Comment peut-on supprimer l'effet placebo des médicaments? J'en dis, surtout ne le supprimez pas, il ne va plus rester grand-chose. Donc la sophrologie, ça nous montre aussi la puissance de l'esprit. C'est que le sophrologue qui fait un travail admirable, j'ai fait de la sophrologie pendant des années, et bien la sophrologie est quelque chose d'admirable, mais qu'est-ce que le sophrologue, mis à part de passer l'induction, et bien il ne fait rien. C'est la personne elle-même, l'esprit de la personne, qui va agir sur son corps, qui est capable de provoquer des anesthésies, qui est capable de provoquer des arrêts d'hémorragie, elle est capable de faire des choses extraordinaires. La pensée positive, le stress, tout ça, c'est... J'avais lu un article il y a quelques mois qui m'avait fait beaucoup sourire, parce que faites attention, faites très attention. Il y a une maladie grave qui est en train de se développer, une très maladie grave qui est en train de se développer, c'est que le bonheur est contagieux. Donc c'est ennuyeux. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est une étude très sérieuse qui avait été portée quand même sur 1800 personnes, ce qui avait été étudié pendant plus d'une dizaine d'années, et qui avait montré que quand une personne était heureuse, joyeuse, qui était pleine de bonheur, eh bien à ce moment-là, c'est irradié. Alors évidemment, ça faisait déjà plaisir à son conjoint ou à sa conjointe, ça faisait plaisir à ses enfants. Bon, tout ça, rien de très original. À ses amis, oui, ok. Mais après ça, ils ont été beaucoup plus loin. On s'est aperçu que ça faisait du bien aux amis des amis. Et puis que ça faisait du bien aux amis des amis des amis. Donc trois générations, si je peux dire. Et puis d'un autre côté, ça a irradié aussi autour de l'habitation, ça a irradié sur une vingtaine de kilomètres, 40 kilomètres. Donc vous vous rendez compte, ça nous prouve aussi que cette pensée n'est pas enfermée dans notre boîte crânienne. On a bien vu hier d'où est-ce qu'elle venait, cette information, avec les ondes non linéaires. C'était vraiment extrêmement intéressant parce qu'on comprend qu'on irradie et qu'on irradie également à l'autre bout de l'univers, si on le veut, grâce à cette pensée. Donc la prière est aussi quelque chose d'extrêmement bluffant. Ils ont fait des études à l'université de Harvard, c'était sur la prière, en travaillant sur des personnes qui étaient hospitalisées en cancérologie. Et la moitié était suivie par des prières, toutes prières confondues, même des athées étaient là pour prier, pour penser à eux. Et puis ils avaient fait ça aussi sur des femmes qui étaient traitées pour stérilité, qui suivaient des fécondations in vitro. Et il y avait des résultats extrêmement significatifs. Je me rappelle particulièrement pour les femmes qui suivaient une fécondation in vitro, les femmes qui bénéficiaient des prières avaient jusqu'à 40% de fécondation in vitro réussie en plus que le groupe qui ne bénéficiait pas des prières, alors qu'elles n'étaient même pas au courant qu'on priait pour elles. Donc c'est vraiment des éléments importants, mais après on peut aller encore un peu plus loin, parce qu'on arrive dans le merveilleux, c'est des choses qui s'ouvrent comme l'épigénétique. Les expériences russes sont remarquables aussi sur la pensée, je vous insiste vraiment pour les regarder. On n'a pas le temps de... Mais l'épigénétique est un élément passionnant parce que ça nous apprend qu'en fin de compte, nous ne sommes pas tributaires de nos gènes. On est capable de changer nos gènes grâce à notre mode de vie. c'est pas tout à fait changer nos gènes, on va pas changer un gène contre un autre, c'est-à-dire c'est qu'on va, on est capable, avec notre, grâce à notre mode de vie, d'ouvrir certains gènes et de refermer d'autres. Ils ont fait même des études sur des hommes qui avaient des cancers de la prostate, ils se sont aperçus qu'après de 3 mois de changement de vie, eh bien ils étaient capables de refermer déjà une bande partie des gènes qui étaient cancéreux. Donc c'était vraiment des éléments, alors qu'ils bénéficiaient, ils ne suivaient aucun traitement, simplement leur changement de vie a suffi pour changer déjà ces choses-là. Ça ne suffit pas forcément pour les guérir, mais c'est déjà un élément extrêmement important de nous montrer comment on est maître également de nos gènes. Donc les cellules souches, c'est aussi un élément très passionnant, parce qu'on en découvre partout dans l'organisme. Et pourquoi notre bras ne repousse pas quand il a été coupé? Il n'y a aucune explication. La queue du lézard repousse bien, pourquoi ce ne serait pas notre bras, ne pourrait pas en faire autant? Et on arrive à faire aussi des transmutations. Il y a des études qui avaient été faites avec la pensée, qui avaient montré qu'on était capable aussi de transmuter certaines molécules. Et donc notre pensée n'a pas de limite. Je vais reprendre le titre du livre de Jean Vital, Nos limites. Nos limites, il n'y a pas de limite à notre pensée. Alors je pense que ça peut déjà répondre à une partie de la question de tout à l'heure. Et puis, mais seulement, il y a quand même une limite. Quand même une limite, c'est, il n'y a pas à reprendre à ce moment-là le terme français, il y a nos limites. Les limites que l'on a, c'est en fin de compte nos propres limites, nos propres pensées. On est toujours là en train de se dévaloriser, on est toujours là en train de ne pas y croire, on est toujours là en train de dire c'est pas possible, non je ne le mérite pas, non c'est pas pour moi, non c'est pas possible, non je m'ai appris, moi jamais appris ça, il n'y a jamais personne qui y arrivait. Il y avait la phrase qui était merveilleuse, qui disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Donc c'était moi, c'est vraiment des choses qu'il faut pousser les limites encore un peu plus loin, et n'hésitez pas, et voyez grand, parce que notre pensée va commencer à créer dans l'énergie, et ensuite elle va se matérialiser plus ou moins rapidement, selon l'importance de ce qu'on va y mettre dans notre énergie, comme énergie, parce que souvent, il suffit de se remettre dans l'énergie, de placer dans l'énergie, de commander l'énergie, et en même temps, quand on commande dans l'énergie, on se positionne en faisant des demandes très précises, et on va voir tout à l'heure comment on peut faire. Donc la pensée crée dans l'énergie, qui ensuite se matérialise. Il y avait une phrase qui m'avait beaucoup intéressé de chercheur de la physique quantique. Il disait, bon, on est entouré d'énergie, ok. Et en fait, je vous ai expliqué, tout le monde vous l'a expliqué, que l'énergie se forme et va se transformer en matière. Ok, très bien, jusque-là tout le monde est d'accord. Mais ce qui est intéressant, là aussi, tout le monde est d'accord aussi, pour dire que la matière se formerait sous notre regard. C'est-à-dire que tout de suite, là, simplement en vous regardant, je suis en train de vous créer, de créer cette image-là. Et peut-être que derrière moi, c'est le vide quantique et le vide énergétique. Et vous, pareillement, vous êtes en train de me créer devant vous, alors que derrière vous, il n'y a peut-être plus rien. Donc on est vraiment dans la matière. La matière se formerait sous notre regard. Et il y avait une autre phrase que j'avais beaucoup aimée, qui disait que l'univers était plus une pensée qu'une mécanique. Donc, on s'aperçoit d'un seul coup qu'on arrive pour la connaissance de l'univers. Il va peut-être falloir que les physiciens continuent leurs recherches, mais il va peut-être falloir regarder de plus en plus du côté du sens, de la pensée, du psychisme, etc. Et là, c'est quand on regarde les discussions des physiciens, ils deviennent de plus en plus, je vais lâcher le mot, spirituel, et de moins en moins physique, quand ils en vont arriver à la fin de leur carrière, quand ils osent enfin dire ce qu'ils ont vraiment trouvé. Donc la matière se forme, la matière s'informe, on informe la matière, et on enforme la matière grâce à notre pensée. Donc on peut parler du doigt de Dieu, mais en fin de compte, le doigt de Dieu, ce serait peut-être le nôtre. Parce que je vais vous donner un secret, hein, l'univers n'existerait peut-être que par notre simple présence. En fin de compte, nous ne serions pas sur Terre comme étant un monde avec 7 milliards d'individus. Nous serions dans 7 milliards de mondes qui seraient reliés ensemble par une conscience commune. Donc ça change complètement le paradigme, ça change complètement le point de vue. Et si vous voulez, vous imaginez que nous sommes les créateurs de l'univers dans lequel on vit. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand on voit une tâche, vous voyez, c'est bien, on va prendre l'analogie avec la projectionneuse et l'écran. Bien, autrefois, on posait les diapositives, on va reprendre le vieux système, ce sera plus simple. On met une diapositive, on a une image qui est devant nous et qui ne nous plaît pas. Alors évidemment, on peut prendre un chiffon et puis aller effacer, essayer de corriger la partie de l'image. On peut aussi enlever l'écran, mais l'image sera toujours là. On peut casser le mur qui est derrière, l'image sera toujours là. Or, simplement, ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller voir le projecteur, et la projectionneuse, pardon, et puis de changer la diapositive pour en mettre une autre. Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est tout le temps en train de reporter la responsabilité de nos vies à l'extérieur. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est le gouvernement, c'est les intempéries, c'est tout ça. Donc, tout est reporté sur l'extérieur. Alors qu'en fait, nous sommes en train de créer complètement, d'une manière constante, le monde. Et c'est ce que nous apprend aussi l'Oponopono. L'Oponopono est absolument merveilleux parce que c'est une tradition qui nous vient de Hawaï et qui rejoint tout à fait la physique quantique et rejoint tout à fait tout ce que je viens de vous décrire à la minute. C'est qui nous apprend qu'en fin de compte, nous sommes créateurs à 100% de ce qui se passe dans notre vie. J'ai bien dit 100%, ce n'est pas 99,99%, c'est 100%. 100%. Mais il y a aussi une autre expression qui était intéressante, c'était qu'en fait, il y a beaucoup de penseurs qui disent « les êtres humains ne seraient en fin de compte que des amalgames de mémoire ». Or, ben justement, c'est ce que disent aussi l'Oponopono, on dit « tout ce qui vient nous déranger dans notre environnement ». Que ce soit une situation, que ce soit un vécu, que ce soit une personne, que ce soit n'importe quoi. Eh bien, tout ça simplement, ça veut dire que c'est une mémoire erronée que j'ai en moi. Et donc, cette technique-là, c'est une technique de réconciliation. Alors, réconciliation avec l'autre, mais vous l'avez compris, c'est surtout une technique de réconciliation avec lui-même. Parce que le docteur Lem dit souvent « les autres ». Mais il n'y a pas d'autre, ça n'existe pas. Vous n'existez pas, vous n'existez que par ma création, et vous, je n'existe que par votre création. Donc, la phrase classique, c'est qu'on dit, c'est quand on a un événement qui agit comme ça, et bien à ce moment-là, c'est désolé, pardon, désolé de t'avoir créé, d'avoir créé cet événement qui est désagréable, qui est nocif pour moi et qui est pour tout le monde. Pardon de l'avoir fait. Merci de me l'avoir montré, parce qu'enfin, ça m'a permis de voir que j'avais une mémoire erronée qu'il faut que j'ai travaillé et que j'évolue. Et puis, je t'aime. Moi, je dirais plutôt « je m'aime », parce que « je m'aime », c'est que c'est plutôt s'envoyer... Quand on dit « je t'aime », on l'envoie à l'autre, mais comme l'autre, c'est nous, il faut encore que ça nous revienne. Moi, j'ai trouvé que quand on dit « je m'aime », ça permet aussi d'être directement en action sur cette mémoire erronée. Et il faut bien comprendre que le docteur Lem, au départ, lui, guérissait ses patients, enfin, guérissait, améliorait ses patients, au moins les guérissait, travaillait dans un hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital psychiatrique, il ne voyait même pas ses patients, parce que c'était dans un univers carcéral et trop dangereux. Et simplement le fait que ses patients étaient là dans sa vie, eh bien, à ce moment-là, il prenait ses dossiers, et à chaque fois qu'il voyait un patient, il était là en train de faire ce que je vous dis, la technique de réconciliation, désolé, merci, pardon, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est que ces patients, au bout de quelques semaines, de quelques mois, eh bien, ces patients commençaient à aller mieux. On pouvait commencer à diminuer leur traitement chimique, on commençait à pouvoir les sortir de l'isolement, on commençait à les voir changer. Donc tout le monde a été le voir en lui demandant « qu'est-ce que tu fais ?» Lui, il dit « je ne fais rien, je fais strictement rien. » T'as quand même fait quelque chose. Oui, il l'explique. Ben voilà. Moi, je reprends ces dossiers. Ces personnes sont là pour moi, sont là en train de me montrer des parties difficiles pour moi et qu'il faut que je travaille pour justement arriver à évoluer. Et donc, les personnes qui sont en face de lui, à partir du moment où il guérissait lui de cette mémoire erronée, eh bien, à ce moment-là, ça lui permettait à l'autre de guérir. Alors, il faut bien comprendre que l'Oponopono n'est pas... Il ne faut pas l'utiliser comme méthode de guérison à proprement parler, parce que Dr. Lem l'a fait tout en sans chercher un but particulier. Ce n'était pas, il ne faut pas être dans la recherche d'un but, il n'a pas fait ça pour guérir les autres. Il a fait ça parce qu'il a vu, j'ai une mémoire erronée, je la solutionne, je la guéris. Et puis voilà, ce qui va venir après ne nous appartient pas, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Donc c'est plus un mode de vie qu'une manière de traiter. On peut l'incorporer dans ses soins, mais ce n'est pas un traitement à proprement parler, à part entière. Donc l'Oponopono est extrêmement intéressant, et moi je vous engage vivement à l'utiliser et à l'essayer. Il y avait un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Psychologie, et la journaliste avait très bien vu les choses, elle se posait des questions, l'Oponopono, encore un élément de technique d'évolution personnelle, etc. Et puis elle était là en train d'étudier l'Oponopono et le livre que j'ai écrit avec Maria Elisa Hurtado, et puis elle disait, et puis justement brutalement il y a eu une dispute au niveau de son couple. Donc c'était la première fois qu'elle avait ça, et puis Elle est revenue l'après-midi, elle dispute sa gueule déjeuner du midi, elle est revenue l'après-midi, puis elle a retrouvé le bouquin de Ho'oponopono, puis elle dit, après tout, je risque rien de faire Ho'oponopono, voilà. Essayons Ho'oponopono. Et donc, elle a commencé à faire Ho'oponopono sur son mari, sur ce qui s'était passé. Et puis, elle n'avait pas fini de faire Ho'oponopono, que déjà, il y avait son ami qui lui téléphonait en disant, voilà, mais écoute, j'ai réfléchi, on s'est disputé pour rien, donc c'était la technique de réconciliation. Ce qui est extraordinaire avec Ho'oponopono, ne me croyez surtout pas, essayez-le. Vous savez, c'est comme pour les captages d'énergie, ne me croyez pas, tentez-le, faites-le. Et mais c'est tout ça, c'est l'élément qui nous permet de nous rendre libres, de nous rendre indépendants et de nous faire avancer sur le chemin de la vie. Et donc, essayez-le et vous allez voir que très souvent, vous allez pouvoir changer les événements dans votre vie immédiatement. Ça ne va pas arriver dans 15 jours ou dans 3 semaines, c'est immédiat. Par contre, ne soyez pas dans l'attente d'un résultat, ne faites pas ça pour telle ou telle chose, mais faites ça parce que vous êtes en train d'effacer une mémoire. Donc, on efface de mémoire erronée en mémoire erronée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, une fois qu'on aura effacé toutes nos mémoires erronées, si d'aventure on les efface toutes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, oui, j'ai oublié de vous dire que tout ça, évidemment, c'est l'énergie de l'amour. Et l'énergie de l'amour est un élément extrêmement, extrêmement fort, extrêmement puissant. Et cette énergie de l'amour, eh bien, elle n'a pas son opposé, elle n'a pas d'équivalent dans l'univers. La haine, la guerre, tout ça, ce n'est pas l'opposé de l'amour. C'est l'opposé, c'est la compassion, c'est plutôt le partage, etc. L'amour est vraiment un élément extrêmement puissant qu'il faut savoir utiliser. Donc, une fois qu'on aura effacé toutes nos mémoires, quand on aura effacé toutes ces mémoires erronées, qu'est-ce qu'il restera ? Alors il y en a certains qui disent il ne restera rien. On sera dans la vacuité. C'est peut-être pas mal, faut essayer. Je n'ai pas encore essayé, mais on sera dans la vacuité. Moi, personnellement, j'ai plutôt l'impression qu'on va retrouver notre essentiel. C'est-à-dire qu'on reviendra sur notre essentiel, sur ce que l'on est vraiment. Ça permettra de nous faire ressortir nos propres aspirations, nos aspirations profondes, ce qu'on a vraiment, nos besoins profonds. Et une fois qu'on aura ça, enfin, on pourra créer par notre pensée, mais on fera ça d'une manière consciente et d'une manière, j'allais dire, intelligente. Pourquoi consciente et intelligente ? Parce que si nous faisons ça aujourd'hui, nous risquons, alors qu'on n'a pas effacé ces mémoires erronées, eh bien nous risquons de faire des demandes qui sont là encore erronées et qui vont être à l'encontre de notre chemin de vie, à l'encontre de nos besoins fondamentaux. Et donc, on ne sait pas, nous, on est justement perdu entre ces mémoires vraies et ces mémoires erronées, on ne sait plus quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises. Donc il faut commencer, là surtout aujourd'hui, à effacer ces mémoires erronées, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on arrive dans les nouvelles énergies, et ces nouvelles énergies nous incitent fortement à effacer toutes ces mémoires, tous ces boulets qu'on traîne aux pieds, pour pouvoir accéder à ces nouvelles énergies, à cette nouvelle vibration. Donc, on pourra, une fois les mémoires erronées, ça on ouvre un petit peu le voile de ce qui se passera ensuite, eh bien on va pouvoir devenir vraiment les créateurs de notre vie et aussi créateurs de notre univers. Hein, parce que c'est des éléments essentiels et le reste n'a tellement peu d'importance. Avec cette pensée, si on ajoute de l'énergie, eh bien évidemment on va pouvoir changer le monde. On va pouvoir changer le monde, mais on va pouvoir changer notre monde. Et puis on va changer aussi l'univers, parce que vous avez vu ces ondes qui peuvent aller à l'autre bout de l'univers. L'univers, on le crée également. Et puis, ne changez pas, quelque part, il n'y a plus besoin de se mettre dans la révolte ou dans la révolution. Il suffit simplement, à chaque fois, quelque chose ne nous plaît pas dans notre vie, même dans notre vie, dans la vie politique, dans la vie mondiale, dans tous les événements qui se passent aujourd'hui. Créons, passons à l'Ho'oponopono. Faites déjà l'effacement des mémoires intérieures et ce sera déjà un élément extrêmement important pour les gens qui souffrent de tous ces facteurs sismiques et autres. Donc, avec notre pensée, si on ajoute de l'énergie, si on capte l'énergie en même temps, et si sont vraiment des pensées fondamentales pour nous, et qu'on verra, qu'on retrouvera surtout une fois qu'on aura effacé une grande partie de ces mémoires erronées, eh bien là, on pourra vraiment être les créateurs de notre vie, mais d'une manière très puissante et très consciente. Parce qu'en fin de compte, nous sommes les seuls maîtres de notre vie, et nous sommes les créateurs de tout du monde, de tout le monde qui nous entoure. Alors, comme je vous le disais souvent, il y a les énergies nouvelles arrivent. Donc, on a avec la résonance de Schumann qui est en train de vibrer à un niveau beaucoup plus élevé. Je retrouvais des éléments anciens qui montraient, par exemple, que l'être humain vibrait aux alentours, et la Terre vibrait aux alentours de 6500 unités de vie il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. On en retrouve un petit peu, il y a une dizaine d'années, c'était à 8000. On est au-dessus de 9000 là actuellement. On sait qu'on est au bord des inversions des pôles. On sait que l'épaule bouge sans arrêt. On voit évidemment tous ces facteurs terribles qui se passent actuellement avec les tremblements de terre, avec les éruptions volcaniques qui se réveillent après 1 million d'années, avec avec les inondations, on voit que tout ça, c'est en train de s'accélérer d'une manière extraordinairement importante. On s'aperçoit aussi que nous-mêmes, on est très bouleversés, on est un petit peu comme des fétus de paille dans tout ça, mais on a aussi toutes ces nouvelles sensations qui nous viennent, toutes celles qui vont nous aider aussi à traverser ça. Et puis le calendrier maya, surtout n'ayez pas peur de cette date du 21 décembre 2012, n'en ayez pas peur. Vous savez, est-ce que vous avez peur du 31 décembre de chaque année? 31 décembre, c'est une date, c'est simplement une date qui montre qu'on passe d'une année à l'année suivante. Et simplement, là, 2012 a déjà commencé, on est déjà sur le chemin, et il se continuera après. Et c'est tout, 2012 ne sera pas une année, ce sera une année de changement, c'est sûr, mais ce n'est pas, il ne va pas forcément y avoir un grand bouleversement à ce moment-là. Par contre, il faut suivre un petit peu ce cheminement, et ça c'est un élément extrêmement important, parce que de ne pas être dans la peur, de se rappeler qu'on est les créateurs de ce qui nous arrive, et que selon la pensée qu'on va émettre, si elle est une pensée comme là actuellement, on est en train d'émettre des pensées terribles, tout le monde pense que ça va être la fin du monde, qu'il va y avoir des tremblements de terre, qu'on va tous mourir, etc. Si on part de ce principe-là, bah oui, ça va se faire, mais si on peut aussi penser qu'on va dans un monde meilleur, et la cinquième dimension sera quelque chose d'extraordinairement beau, je ne sais pas si on la connaîtra, parce que, comme je vous dis, ça va être un cheminement qui va se faire sur beaucoup d'années, et il est difficile de dire aujourd'hui en combien de temps, mais ces hautes vibrations vont nous permettre aussi de sortir enfin de notre matérialisme. Elles vont nous permettre aussi d'atteindre notre autonomie individuelle. Donc surtout, je le dis et je le répète déjà aujourd'hui, ne croyez rien que vous n'ayez expérimenté, et surtout ne cherchez pas la vérité ailleurs, elle est en l'intérieur de vous. Donc soyez des individus individuels, des individualités, et écoutez ce qui se passe autour, expérimentez, mais ne suivez pas les gourous, les maîtres, etc. Tout ça, maintenant, on est en directe relation avec toutes ces informations-là. Quand je donne des stages de soins énergétiques, je suis toujours éberlué de voir avec quelle rapidité toutes les personnes qui sont là, de tous milieux, de toute formation, sont capables de ressentir les corps énergétiques, ressentir les blocages énergétiques avec les mains en l'espace de quelques minutes, je le dis bien. Donc, évidemment, l'humanité, si je peux dire, va aller vers plus d'humanité. Ce ne sera pas plus mal. Hein. Donc, les nouveaux sens apparaissent. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, l'intuition en premier chef, la clairvoyance, la télépathie. Donc, on commence à avoir des choses qui se développent d'une manière très forte et très puissante de ce côté-là. Donc, ne freinez pas. Allez-y, continuez, suivez. Mais surtout, prenez ça comme des informations. Ce sont des nouveaux sens qui se créent. Et le sens, quand vous avez la vue vous donne une information. On n'est pas obligé forcément de la suivre à tous les coups. Elle donne, comme vous voyez une voiture qui arrive au loin, vous la voyez, mais c'est vous dites, tiens, peut-être que j'ai encore le temps de la traverser. Vous pouvez avoir l'intuition d'un danger, donc vous la suivez ou la suivez pas, mais là, vous êtes en train de prendre votre propre choix à ce moment-là. Donc, les nouveaux sens, c'est important. Mais alors, ce qui est très très intéressant, et ça va nous obliger d'avoir beaucoup plus de tolérance, de développer notre tolérance, c'est qu'il n'y aura pas de bien et de mal. La dualité va disparaître. Vous avez vu, la société humaine a été très matriarcale il y a beaucoup de siècles. C'était une société d'ailleurs où il y avait très peu de guerres, et les choses se résolvaient surtout par justement l'intuition, par les informations que les femmes pouvaient tirer à droite à gauche. Après ça est venue la société masculine que l'on voit, dont on voit les résultats aujourd'hui, et puis demain ce sera ni masculin ni féminin, ce seront les deux. Et c'est ça l'intérêt. On est tous affublés de deux cerveaux, droit et gauche. C'est pas pour s'en servir d'un seul, on est là pour s'en servir des deux. Et quand on est en servant des deux, on fait des choses absolument merveilleuses et on est vraiment en contact avec plein de choses. Donc on n'aura plus la notion de bien et mal, ce sera ni bien ni mal, ce sera. C'est tout. C'est tout. Et on sera dans l'acceptation de ce qui se passe, tout en ayant une grande confiance dans ce que nous offre l'énergie, de ce que nous offre la vie, dont c'est nous-mêmes les créateurs. Nous sommes nous-mêmes les créateurs. Donc c'est pour se préparer dans tout ça, ce qui est important pour nous, c'est surtout, de faire bien le nettoyage de nos croyances, le nettoyage de nos valeurs, nettoyage de nos croyances limitatives, de nos valeurs aussi limitatives, de nos peurs, commençons par nettoyer tout ça. Nettoyons aussi toutes nos mémoires erronées, et l'Oponopono, si elle est ressortie en ce moment, ce n'est pas un hasard s'il est revenu maintenant. Le FT, le TAT sont plein d'autres techniques qui sont extrêmement intéressantes et qui apprennent à chacun à pouvoir se débrouiller par lui-même. Et on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires pour faire tout ça. Ce qui n'empêche pas qu'on a besoin de thérapeutes ou de médecins pour les cas importants, mais déjà on est capable de faire énormément de choses par nous-mêmes. Et comme après ça, ce qui est important aussi, c'est de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que l'on est ? Qu'est-ce que l'on veut ? Pourquoi on est là sur cette terre ? Quelle est notre mission ? Qu'est-ce qu'on vient y apprendre ? Qu'est-ce qu'on vient y faire ? Et ça, c'est un des éléments extrêmement importants. Et ça, c'est inscrit à l'intérieur de chacun de nous, et c'est pas compliqué à trouver. C'est simplement là où on est bien, là où on est en train de se développer. Et notre société nous emmène dans des chemins qui ne sont pas forcément les nôtres, pour des tonnes de mauvaises raisons. Et d'ailleurs, regardez un petit peu ce que disait le docteur Bach, qui était là au début du 19e siècle, qui est à l'origine des fleurs de Bach. Il disait que la maladie venait justement quand on perdait le chemin de nos aspirations, et justement quand on prenait des décisions dans notre vie physique qui étaient en dehors du chemin de nos aspirations propres, et bien évidemment, on se retrouvait en dualité, on se retrouvait dans le combat, donc il y avait un combat intérieur qui nous amenait à la maladie. C'était très joli. Mais surtout, ce qui est le plus important en plus, c'est d'être dans l'intégrité. Dans l'intégrité, c'est-à-dire de faire, de dire, de penser et de ce que l'on pense, de faire ce que l'on pense, excusez-moi. Donc vraiment d'être toujours en adéquation, que nos actes soient en adéquation avec nos pensées. Et ça, c'est très important, parce que l'intégrité, l'honnêteté est des éléments qui vont permettre d'arriver dans ces nouvelles vibrations. Et comme on disait autrefois, c'était la pesée des âmes, le jugement dernier. Donc tout ça, c'était des images qui terrorisaient la plupart des personnes, ont terrorisé des générations entières là-dessus. Or, c'est rien, c'est pas assez. La pesée des âmes, c'est simplement le niveau vibratoire de la personne. Et plus on va s'alléger, plus on va se supprimer tous ces boulets qu'on a au pied, plus on va arriver sur les vibrations qui vont être hautes, qui vont être élevées, qui vont être positives. Et à ce moment-là, on va arriver à des âmes qui vont être légères et qui vont pouvoir suivre l'évolution tranquillement de ces nouvelles énergies. Donc, tout peut changer, et nous pouvons tous créer, là, maintenant, tous autant que nous sommes, si on se met tous unis, en plus, à tous penser à un univers qui sera merveilleux, à un univers qui va se passer, un changement qui va se passer, qui va se dérouler dans la paix, dans la tranquillité, dans l'amour de tous, eh bien, déjà, nous, avec l'embryon qu'on est aujourd'hui de 500 à 600 personnes, eh bien, déjà, on peut faire déjà un grand travail de nettoyage et un grand travail de préparation pour l'humanité entière. N'oubliez pas ça. Et c'est ça, le véritable secret de l'énergie. Donc, je terminerai sur une phrase qui pour moi est fondamentale. C'est fondamental, c'est que nous ne sommes pas des êtres matériels qui avons des expériences spirituelles. Nous sommes tout au contraire des êtres spirituels qui avons sur Terre une expérience matérielle. Et ça, n'oubliez jamais notre véritable dimension. Et ce qui m'a toujours fait sourire, je vais terminer par un petit clin d'œil, c'était quand vous regardez l'emblème des médecins. Qu'est-ce que c'est l'emblème des médecins ? L'emblème des médecins, c'est le caducée, hein, donc avec le bâton d'Hermès, les deux serpents, et les deux petites ailes qui partent de chaque côté. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que c'est ça ? Et ce qui est très amusant, c'est que ça représente tout simplement la Kundalini. Donc avec Shumana au centre, les deux serpents, c'est Ida et Pingala qui remontent de chaque côté, et puis les deux ailes représentent le début des corps énergétiques de l'être humain. Si bien que ce caducée est une image de l'être humain, du côté énergétique, de l'aspect énergétique de l'être humain. Alors, je trouve très amusant que la médecine conventionnelle ait choisi cet emblème qu'ils ont tendance à négliger, pour ne pas dire davantage. Donc, voilà, quand vous voyez ça sur le haut des pare-brises des médecins, pensez à ça, ça fait sourire. Voilà, donc c'était là où je voulais vous emmener aujourd'hui pour que vous compreniez que vous pouvez faire plein de choses par vous-même. Vous n'êtes dépendant de personne. Vous pouvez faire des choses avec votre pensée à partir du moment où elle est pure et elle est vraiment dans ce que vous désirez, et vous pouvez tout avoir. Alors là, vous pouvez retrouver aussi pas mal d'informations sur mon site qui s'appelle luc-baudin.com. Là, vous pouvez vous inscrire dans la newsletter. C'est là aussi que vous avez des informations sur les stages. Moi, j'apprends personne à faire des stages, à apprendre les soins énergétiques, à ressentir les énergies, à lever les blocages, à faire des choses très, très pratiques. Et c'est un véritable... C'est toujours de bonheur, parce qu'on est dans l'énergie, on peigne dans l'énergie, et on est vraiment dans une autre dimension. Il y a aussi sur le même site, il y a le journal ACAP, c'est un journal qu'on vient de lancer, qui est un journal à télécharger gratuitement, qui est un journal qui paraît à peu près tous les deux mois, et qui donne, il y a le premier numéro qui est sorti il y a très quelques semaines, et qui donne des informations justement pour vous tous, qui vous donne aussi des informations, surtout pour des nouveaux éléments, des nouvelles découvertes, ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu découvrir par nous-mêmes, et on les transmet à tout le monde parce que Tout ça, ça ne nous appartient pas. Les slides que je vous ai fait ne m'appartiennent pas. Les idées que je vous ai données ne m'appartiennent pas. Et donc, elles appartiennent à l'humanité entière et donc à vous-même également. Donc, tout ça, il faut le distribuer, il faut que tout le monde le sache parce que demain, il risque de pas y avoir, on peut avoir des petits problèmes d'alimentation, on peut y avoir des problèmes d'alimentation électrique en particulier, qu'est-ce qu'on viendra. Et on peut avoir des problèmes aussi de fourniture en médicaments ou choses comme ça. Donc, il faut savoir ce qu'on va faire. Et il y a des solutions très pratiques et le côté énergétique peut nous apporter énormément de choses, et le journée à la carte vous ouvre sur tout un tas de nouvelles choses qui sont en train de se développer, comme de par hasard aujourd'hui. Vous savez, il y a toujours le remède à côté de la source, et bien donc on a d'un côté la maladie et de l'autre côté le remède, et bien là, quelque part, les nouvelles générations, les nouvelles vibrations arrivent, et bien comme de par hasard, on nous donne des outils aujourd'hui qui sont capables pour que chacun puisse traverser cette phase de turbulence avec sérénité. Vous retrouverez également cette plupart des informations au niveau de trois livres que j'ai écrits, La médecine globale et intégrative, qui va travailler beaucoup sur la origine de l'énergétique et la place de l'énergétique dans la médecine, avec entre le physique et le psychisme. Ho'oponopono, que j'ai coécrit avec Maria Elisa Hurtado Gracier, qui est un livre justement très pratique et qui permet d'utiliser Ho'oponopono dans sa vie pratique et dans sa vie quotidienne, et qui est un véritable bonheur. Je vous en supplie, essayez-le, parce que vraiment, vous allez voir comment on est bien dans cette énergie-là. Et puis enfin, il y a un livret, un e-book quand même, un e-book assez épais, parce que je vous préviens, il fait quand même 120 à 130 pages, que j'ai écrit et qui est à télécharger gratuitement toujours sur les autres livres, la médecine intégrative et Ho'oponopono est à vendre. Il n'y en a pas ici, ils sont à vendre dans toutes les librairies ou sur Internet, vous les trouvez facilement. Quand pour ce qui est de préparez-vous au changement, lui est à télécharger gratuitement sur le site que je vous ai indiqué là tout à l'heure, et ça vous donne plein d'informations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui entre les réalités de tout ce que l'on voit, des catastrophes qui apparaissent. Là, ça fait le point également de tout ce qui est prophétie, donc il y a à boire et à manger, comme on dit, et puis surtout, ça vous donne des renseignements très pratiques pour traverser cette période de turbulence, et pour que justement, comme je le disais tout à l'heure, que vous puissiez faire ça avec tranquillité. Donc pour répondre à la question qui m'était posée au tout départ, l'immunité, oui, on agit dessus, et c'est un épiphénomène, parce que l'immunité est aussi quelque chose qui nous permet de lutter notre moi et notre non-moi. Alors on peut se poser la question, où est notre non-moi? Mais ça, c'est une autre question. Je réponds par une question, par une autre question, peut-être. Voilà, merci à tous, en tous les cas, de m'avoir.